19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver comme chaque soir. Nous sommes jusqu'à 20h ensemble. Ensemble pour analyser, décrypter et commenter l'actualité, vous le savez. Et ce soir au menu, qu'est-ce qui va vous accompagner? Eh bien, on reviendra sur l'Assemblée nationale qui adopte une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine. Bon, quelle interprétation doit-on avoir, évidemment, de cette adoption? Ensuite, nous irons nous intéresser sur le Covid-19 et le télétravail. Parce que le gouvernement, lui, veut prolonger de 2 semaines la règle des 3 jours. Sauf que, évidemment, certaines voix s'élèvent. Et puis, surtout, l'organisation des familles et la gestion des enfants et la gestion tout court, justement, du télétravail. Ensuite, nous nous intéresserons sur un troisième sujet qui, lui aussi, nous a interpellé aujourd'hui. Eh bien, c'est Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qui est-il? L'homme d'affaires, mais pas que. L'homme d'affaires qui possède des médias, notamment dans CNews. Eh bien, il a été aujourd'hui auditionné au Sénat. Et sachez quoi? Une véritable punchline est sortie de sa bouche en disant clairement que Éric Zemmour était le président de la République. Bon, comment doit-on comprendre cela? Quand il lâche évidemment cette déclaration. 19h30, le Quoi de Neuf avec Pascal Boniface, le fondateur de l'ERIS. Et puis vous aussi au 01 53 48 3000. Ça, c'est votre standard. C'est le vôtre. Il ne bouge pas. Et vous, vous partout en France, je vous attends évidemment pour réagir sur ces trois sujets. Allez, c'est parti. C'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Jimmy Damidou, bonjour, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Auteur.
Tout à fait.
Plus que jamais.
Toujours.
Et délégué syndical au CGT.
Tout à fait.
Tout va bien?
Ça va et toi?
Bah écoute, ça va, tout va bien.
Ouais, ça va, ça va.
Vous êtes détendu ou vous arrivez
ouais,
un peu...
Ouais, non, ça va, ça va. Journée de délégation aujourd'hui, assez chargée.
Une je journée sens là, chargée, vous êtes venu chargé là.
C'est bien, et je suis venu dans les studios direct.
Eh ben, et donc ah. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ça, Abdeslam Itache?
Bon, on verra.
Il est chaud, notre ami, là.
Hein? J'appréhende.
Abdeslam Itache, bonsoir.
Bonsoir, Adil.
Vice-président bonsoir, du Modem dans le 95.
C'est ça.
Tout va bien, évidemment.
Je salue les auditeurs de Beurre FM. Je voulais passer un petit message.
Attention, lequel?
À la famille Mérignac.
Ah, d'accord. Je croyais que vous vouliez passer un message.
J'ai perdu un oncle du côté
de... Eh bien, nos sincères condoléances.
Je voulais les saluer et si tu permets, je voudrais leur dédier cette émission.
Eh bien, écoutez, allez-y, Abdeslam Itache, voilà, bien sûr.
Voilà, la famille Méribay à Voix-en-Velin, ils doivent certainement nous écouter.
Eh bien, on leur souhaite nos sincères condoléances. Et évidemment, on les soutient dans ces moments douloureux. C'est évidemment normal, on comprend. Et on est là aussi pour soutenir. Allez, messieurs, tout de suite ce premier sujet. L'Assemblée nationale qui adopte une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours par la Chine. Alors, le texte a été voté, hein, 169 voix. Mais attendez, mais pas que. Mais aujourd'hui, évidemment, on peut parler quand même de violences systématiques à l'égard, hein, et des témoignages aussi qui sont accablants. Ça, c'est ce qu'on a évidemment, beaucoup ont récolté, les députés. Je parle. Et, bon, est-ce que vous pensez que ce texte a une portée qui peut déstabiliser la Chine? La question, elle est là. Ben oui, c'est bien d'adopter une résolution qui dénonce le génocide des Ouïghours. Mais bon, est-ce que c'est contraignant? Jimmy Damidou.
Déstabiliser, ça dépend de quoi on parle quand on dit déstabiliser. Sur le plan financier, sur le plan économique, je ne pense pas que ça va les déstabiliser plus que ça.
Vous pensez?
La Chine, elle est, c'est un, voire le pays le plus puissant du monde. Le pays, sur le plan, peut-être sur le plan moral, oui, ça va les toucher, peut-être sur le plan moral, mais à la limite, j'ai envie de vous dire que vu leur puissance, leur poids économique dans la balance, sur le plan mondial, quand on remet en cause
aucune contrainte morale, aucune contrainte,
ça va les déranger plus que ça. Donc non, ça va pas. Je pense pas que ça va les déstabiliser plus que ça. Ils vont continuer à mettre en application leur politique.
Est-ce que la Chine est responsable d'un... vraiment la Chine... Je pose la question. Attention, la Chine est responsable d'un génocide des Ouïghours?
Alors, je dirais que pour comprendre... Alors, c'est un sujet assez délicat, mais je pense qu'il faut revenir à tout simplement à l'analyse de l'État. On a affaire à un État qui est très grand, assez grand, assez puissant, de par le fait qu'il a une force de ce qu'on appelle la force de travail nationale, qui est relativement conséquente. Il a des moyens de production. Et vous savez, dans une nation, lorsque vous avez des moyens de production développés et que vous avez une force de travail nationale particulièrement conséquente, vous avez ce qu'on appelle, en termes marxistes, un taux de profit, un taux de plus-value, un taux de profit en devenir particulièrement conséquent. Donc en fait, c'est un pays, c'est un la Chine actuellement, mais c'est mon avis, c'est que c'est un pays qui met en exergue un parti État. C'est un parti État qui est au pouvoir et qui met en application une dictature du capital particulièrement féroce. Et qui, de toute façon, ne se laissera pas déstabiliser. Pourquoi ? Parce que la Chine a compris que, sur le plan mondial, elle est en train de concurrencer les autres grands pays impérialistes, notamment, je pense notamment à l'impérialisme nord-américain. On parle de quoi ? La Chine, en fait, elle est intégrée dans ce qu'on appelle les BRICS. Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Donc, en fait, ce sont tout simplement des pays impérialistes en développement, qui ont un taux de profit en devenir particulièrement conséquent de par justement les moyens de production et la force de travail particulièrement conséquente.
Oui.
Et en fait, elle sait que de toute façon, c'est un des chefs de file. La Chine est un des chefs de file de ces BRICS et ils vont pas lâcher l'affaire. Ils sont en concurrence directe avec l'impérialisme nord-américain, c'est-à-dire les États-Unis.
Les États-Unis. Abdeslam Itach, quel est votre avis, vous ? Est-ce que vous partagez celui de Jimmy Damidou ou tout au contraire
Alors, avant tout, je voulais juste apporter une précision. Ce qui a été voté, en fait, c'est la proposition de résolution.
Exact.
Il y aura,
je l'ai précisé.
Trois séances publiques qui se passeront le vendredi 4 février. Où l'on abordera. En fait, ce qu'ils ont voté, c'est est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas. Donc, du coup, oui, ça fait débat et il y aura ces séances publiques et je pense que tout le monde pourra les voir sur le site de l'Assemblée nationale et suivre ça de près. Ensuite, Jimmy parlait du marxisme, la transition est belle, on va parler du Parti communiste chinois. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le communisme qui est encore qui fait fort là-bas.
Non, c'est pas le communisme.
Non, tu te trompes.
Jimmy,
c'est le Parti communiste chinois.
Non, je vais t'expliquer. Je
vais t'expliquer. Tu sais, c'est le professeur. Pourquoi c'est pas le
communisme ?
Pourquoi ?
Non, c'est pas du communisme.
Il a raison.
Non, c'est pas du communisme. Non, c'est la Chine. La Chine est un social impérialisme. Attention au terme qu'on emploie. Non, la Chine est un social impérialisme. Social impérialisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est communiste.
C'est votre interprétation.
On est communiste dans les paroles, mais on est impérialiste capitaliste dans les faits.
C'est ça.
Alors laissons le Abdeslam Itach.
Juste une précision concernant ces. Enfin, il y avait plusieurs États qui avaient déjà officialisé leur reconnaissance du génocide des Ouïghours.
Oui.
Et moi, je pèse mes mots, il s'agit d'un génocide. Et je vais apporter...
Vous parlez clairement d'un génocide.
Parce
qu'on parle, moi j'ai vu, recours au travail forcé, surveillance généralisée, torture, violence sexuelle, viol systématisé, internement de masse, politique stérilisation massive et forcée, désinisation, d'éradication de la culture et de l'identité ouïghour, séparation des enfants de leur famille, ça fait beaucoup quand même.
Les gens sont...
Ça fait beaucoup.
On leur retire leurs organes sous prétexte que, voilà, qu'ils sont condamnés à perpétuité. Enfin, je ne sais pas. Si ça, c'est pas un génocide, il faudra me donner la définition du génocide. Ce sont des camps de concentration dans lesquels on parle de rééducation. Mais je vais juste aller au bout de mon propos.
Juste une petite position quand même. Alors,
je vais te laisser.
Ne fasse pas dire ce que j'ai pas dit.
Je t'écouterai religieusement.
J'ai pas dit que ce qui se passait contre les Ouïghours était. Je condamne totalement ce qui s'est passé. Mais je trouve ça un peu farfelu de dire que c'est un régime communiste alors que le Parti communiste chinois n'a plus.
Laissez-le finir.
Allez-y. Contre les Ouïghours.
Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs autres États ont officialisé déjà la reconnaissance du génocide des Ouïghours.
Oui.
Le Congrès des États-Unis, le Parlement britannique, néerlandais, canadien, belge, tchèque et lituanien. Et prochainement, vous avez l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande qui, justement, sont sur cette position-là. Et moi, je pense que, vous voyez, si chaque pays prend cette résolution, à un moment, on pourra peut-être peser. Et en effet... Jimmy, vous avez raison. Économiquement, face à la Chine, on ne pèse pas. On ne peut même pas boycotter la Chine.
Non.
Tout ce que l'on a provient de Chine.
Ça
va du téléphone à la paire de chaussures que l'on a.
C'est ce qu'on appelle la division du travail internationalisée. C'est division sociale du travail internationalisée. C'est là tout le problème, en fait.
Oui, enfin, les communistes se sont bien adaptés, hein, parce qu'ils vont chercher l'économie de marché quand il faut.
Les social-impérialistes de Chine.
Ils sont dans le totalitarisme quand il faut. Mmh. Et ils ne permettent pas, justement. Vous savez, historiquement, ce qui s'était passé il y a des années de ça sur la place Tiananmen, nous avons tous le souvenir de cette personne qui tenait ses sacs et qui s'est mis devant les chars. Vous vous souvenez de cette image?
Ouais.
Eh bien, ça n'a pas beaucoup bougé. La Chine est encore un pays qui exécute ses opposants. La peine de mort existe encore en Chine. Ouais. Donc, vous voyez, au niveau réformiste, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire en Chine. Et je pense que ce communisme chinois nuit à l'homme. Et il serait temps, justement, de passer à un autre régime.
Le régime en Chine, c'est un régime capitaliste.
Concernant cette région,
on peut soulever la question, on peut dire en tout cas la Chine est-elle impérialiste? En tout cas,
c'est d'une dictature du capital.
Ça, je veux bien l'entendre.
C'est une position de classe qu'il faut tenir.
Concernant cette région, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle bénéficiait du principe de statut d'autonomie depuis 1955 et que, en violation d'une règle de l'ONU qui permet justement à cette région de pouvoir vivre de façon autonome, elle a totalement été annexée par la Chine. De la même manière que le Tibet aussi était annexé par la Chine. Donc vous voyez, les Chinois ne sont pas des anges. Bon, cette partie-là de l'Asie que les locaux...
L'État chinois, tu veux dire.
Turkestan oriental.
L'État chinois n'est pas un ange.
Oui, enfin non, c'est surtout les dirigeants.
Les Chinois ne sont pas forcément tous d'accord avec leur État.
J'ai de la sympathie et de l'empathie pour le peuple chinois. Et j'espère qu'un jour, il se détachera du communisme, comme l'ont fait les anciens soviétiques. Vous voyez,
les anciens soviétiques, c'est exactement ça.
C'est là tout le problème, c'est qu'en fait, c'est un leurre que tu mets en exergue. Alors encore une fois,
c'est quoi ce leurre?
Alors, il est question d'envoyer justement des observateurs.
De faire croire que le parti communiste. En fait,
ils sont déjà partis.
Si tu veux la différence. Entre la Chine et les États-Unis, par exemple, t'as pas de différence. Tu vois, la différence qui est.
Des États-Unis.
Non, mais c'est exactement pareil. Je vais t'expliquer pourquoi c'est exactement pareil.
Installons le débat.
Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe en Chine, c'est une dictature du capital qui a compris que pour garder sa place dans l'arène mondiale et pour confirmer sa place de leader mondial, il faut aggraver l'exploitation du travail. Il faut que le capital exploite le travail à fond la caisse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'État français, l'État des États-Unis et l'État chinois. Il n'y a pas des, si tu veux, c'est la même essence de classe entre les trois. C'est à leurre de faire croire que la différence, tu sais, c'est laquelle? Dans l'histoire chinoise, il y a eu une parcelle de communisme.
C'est l'exploitation de l'homme par l'homme.
Il y a un moment dans leur histoire, il y a eu une séquence historique dans laquelle le communisme était mis en exergue. Ce qui fait que ça leur permet, l'État, le parti État chinois, qui est un parti État dégénéré, ça lui permet de se cacher. C'est un paravent social, en fait. C'est un paravent social. Ils se cachent derrière leur histoire, derrière cette séquence historique dans laquelle il y a eu du communisme pour mettre en application une dictature capitaliste. Donc il n'y a pas de différence entre l'impérialisme nord-américain.
Et vous avez posé une question.
La Chine, c'est un pays totalitariste ou pas?
Comme toutes les dictatures du capital, si ça devient.
Le débat continue. On marque une pause pub. On se retrouve dans une poignée de minutes. Si vous aussi vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. Commentez, posez des questions. 01 53 48 3000. Vous êtes les bienvenus. Tout de suite, on marque une courte pause pub et on se retrouve avec Jimmy Damidou, Abdeslam Itach et vous aussi au 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informer avec Adil Farkan.
Il est 19h20, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, le standard est ouvert.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, absolument, vous venez, vous dites, si vous avez un sujet en tête, vous pouvez tout à fait, évidemment, on vous attend au 01 53 48 3000. Jimmy Damidou est avec nous, délégué syndical donc CGT, mais surtout auteur, il y tient absolument, mais également Abdeslam Itach qui est avec nous, le vice-président du Modem sur le département du 95. Messieurs, juste avant de passer au second sujet, est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a un grand silence qui permettent justement ces grands crimes. Abdeslam Itlach.
Aujourd'hui, la parole se libère. Il y a plusieurs pays qui prennent.
Est-ce que vous considérez que l'Assemblée nationale a brisé le silence ? Voilà ma question, elle est là.
Non, mais c'est bien que tous les pays le fassent, les uns après les autres. Mais juste pour venir sur tout ça, pour finir mon propos et on laissera la parole aux auditeurs. Il y a des témoignages qui font état de viols et d'incitation à consommer de l'alcool et du porc. C'est dans le rapport de l'Assemblée nationale. Je ne vous l'invente pas. Ça vient peut-être de la bouche d'Abdelsalam Itlach, mais ce sont des documents que j'ai récupérés. Une stratégie de contrôle des naissances, une stérilisation. 80% des stérilisations qui ont lieu en Chine, 80%, ce sont des Ouïghours. Vous voyez, et pareil, je voulais juste revenir sur l'actualité. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Griezmann, qui faisait de la pub pour Huawei et qui a suspendu son contrat juste pour une chose, parce que ils avaient développé une application qui permettait d'identifier le visage des Ouïghours. Vous voyez,
en tout cas, je m'en rappelle.
Mais ça me fait penser à une époque sombre de l'histoire. Du nazisme où justement on caricaturait le juif. Le juif, il avait un nez arrondi, il était très intéressé par l'argent et autres. On est exactement dans
ceci étant dit, même si ceci étant dit, bon, que la parole se libère, etc. Bon, d'accord, l'Assemblée, moi j'attends rien d'exceptionnel de l'Assemblée, hein, moi, franchement, mais pour moi, en fait, si tu veux, que la parole se libère et qu'il y ait une position morale, pour moi, c'est pas suffisant, en fait. Parce que si tu veux dire, il y a des méchants et des gentils, toi, t'as été méchant et t'as mal agi, on s'en fout, en fait. Tu vois, si tu parles et que. En fait, pour moi, la position morale, elle est corrélative à l'action, en fait. Et quand je dis action, c'est dans le sens philosophique du terme. C'est-à-dire que, concrètement, c'est pas parce que, je finis, c'est pas parce que l'Assemblée nationale, qui plus est française, a lancé de belles phrases farfelues, qui font joli dans le paysage à l'Assemblée nationale, que ça va changer quelque chose à l'affaire. Et l'ont fait lors des gilets jaunes, etc. Pour moi, la position morale, elle ne suffit pas. La position morale, elle doit être liée à l'action.
Et tu as raison.
Il faut qu'il y ait action. Sinon, on s'en fout de ce qu'il dit.
Je vais te rappeler l'histoire. L'Afrique du Sud, lorsqu'il y avait justement cet apartheid, que Nelson Mandela était en prison parce qu'il était noir. Souviens-toi-en. Qu'est-ce qui s'est passé? La plupart des pays ont boycotté l'Afrique du Sud. Il y avait des artistes, d'ailleurs, Michael Jackson et autres, qui avaient écrit une chanson sur un quartier qui s'appelait Sun City. Tapez Sun City sur Google. Vous allez retrouver le morceau. Il y a eu un véritable activisme qui s'est organisé. Et justement, cet état raciste est tombé. Et Nelson Mandela est sorti de prison et il a été élu président de la République.
Ouais.
Voilà. C'est tout. C'est ça la réalité. C'est du rapport de force. Et les Chinois, à un moment, eh ben ouais, c'est vrai. On n'est pas nombreux. On est 67 millions. Ils sont 1,2 milliard. Je suis complètement dans ton. Je partage complètement ton avis. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a deux solutions. On tourne la tête et on fait comme si on n'avait rien vu. Et on laisse les gens se faire massacrer. D'accord.
On fait quoi désormais?
Pour la simple bonne raison que la Chine produit toute la majorité des marchandises du monde et qu'on est totalement inféodé au marché chinois. Donc de toute façon,
on fait quoi, Jimmy?
D'abord,
qu'est-ce qu'il faut? Non mais sérieux, faut faire quoi?
Je pense qu'il faut qu'il y ait une solidarité internationale qui se crée et qu'on passe à l'action corrélativement à une position morale.
On dit la même chose.
Voilà. Maintenant, mais il faut le faire en fait.
Oui.
C'est comme quand tu dis, là je suis d'accord avec toi pour le coup, par exemple à l'époque de Nelson Mandela, une solidarité, moi je dirais pour être plus précis, une solidarité prolétarienne internationale. Parce que moi je suis certain qu'il y a une partie du prolétariat chinois qui n'est pas d'accord avec la position du gouvernement.
Mais le peuple chinois n'y est pour rien.
Tout à fait, c'est pour ça. Il faut bien viser différencier le parti-État du peuple chinois.
Exactement, on dit la même chose.
Allez, on va parler de l'audition de Bolloré au Sénat qui se transforme en différents échanges. Punchline, un lapsus ou peut-être pas d'ailleurs, et des punchlines de Vincent Bolloré devant les sénateurs de l'enquête sur la concentration des médias en France. Tiens, véritable sujet. On va écouter un petit extrait de Vincent Bolloré face aux sénateurs en pleine commission, en pleine enquête. Écoutez.
Bah écoutez, je pense que vous prenez des petits bouts de choses, vous les mettez ensemble pour essayer de faire une histoire. On pourrait, par exemple, dire que je suis déconstructionniste, woke. Vous avez vu la polémique sur IEL. IEL, c'est le petit Robert. Le petit Robert, c'est Editis. Editis, c'est Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré est déconstructionniste. Voilà. Vous avez des dizaines de milliers d'heures sur nos programmes. Voilà. Et quant à Zemmour, pardonnez-moi, mais il publiait des livres à des centaines de milliers d'exemplaires bien avant qu'il ne revienne sur CNews, je vous rappelle qu'il est sur Le Figaro, je vous rappelle qu'il est sur la 6, et comme par hasard, c'est quand il est sur CNews que ça pose problème. Mais je redis, il y a tellement de courants de pensée dans nos livres, dans nos émissions. Moi, personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République.
Personne ne pensait qu'il allait être président de la République. Il parle d'Éric Zemmour, Vincent Bolloré, là. Hein. L'homme d'affaires a été auditionné donc hier, devant une commission d'enquête. Voilà. Sur la concentration et les conséquences, la concentration dans les médias, mais surtout les conséquences. Donc, qu'est-ce qu'on dit de tout ça, avant de parler du lapsus ?
Oh bah pour moi, ce lapsus, il est clairement, c'est pas anodin, ce lapsus, hein. Tout simplement que, en fait, Bolloré, c'est un grand représentant du capital français. On sait que ils ont toujours leur candidat, leur chouchou, leur poulain. Zemmour, qui pour moi est un personnage à vomir. Zemmour est carrément un personnage à vomir. Il est sponsorisé par les monopoles capitalistes, il est sponsorisé par les monopoles, et je prends le risque, je vais y aller, il est sponsorisé par les monopoles sionistes, ce gars-là. C'est pour ça qu'il...
Il a une oreille clochette, là.
Ouais, c'est pour ça qu'il déblatère toute sa diarrhée verbale contre
le
bouchon. Moi je dirais ce que je pense sur ce gars-là, parce que...
Soyez prudent quand même dans ce que vous dites.
Je prends mes responsabilités. Et Zemmour, c'est un des poulains de Bolloré, représentant de la classe capitaliste. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un lapsus, parce qu'en fait, c'est son poulain, il aimerait bien qu'il soit élu, en fait. Et ils vont tout faire pour qu'il soit élu. Voilà.
Bon. Alors c'est un lapsus révélateur ou pas?
Ah, c'est clairement un lapsus révélateur, c'est clair.
Clairement.
Pour moi, oui.
Abdeslam Itesh, il pense autre chose.
Alors, il ne s'agit pas du tout d'un lapsus. C'est quelque chose de délibéré qu'il a dit. Généralement, quand on se trompe, on se reprend tout de suite.
Exact.
C'était flou.
Et il sait ce qu'il raconte.
On peut le réécouter, hein. Vous verrez, c'est
réécoutons juste cette partie-là. Hein, Yanis, c'est le réalisateur, s'il peut nous retrouver juste
dans
cette partie-là.
Dans nos émissions, personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République.
Alors ?
C'est clair ?
C'est clair ?
C'est clair. Mais alors, juste une chose, ne pas se tromper. D'abord, Bolloré possède des médias, c'est un expert de la communication. Il ne se permettrait pas ce genre d'erreur. Donc, vous voyez, c'est un dérapage contrôlé et son choix, c'est justement de faire passer ses messages. Maintenant, je vais me mettre un petit peu dans la peau de Zemmour, bien que j'en rêve pas, et ça serait le pire des cauchemars que d'être dans sa peau. Mais voyons les choses. Si je devais être candidat, d'accord ? Je sais qu'une campagne, ça coûte très cher. La première personne que j'irai voir, c'est Bolloré, c'est mon employeur, pour lui dire que je suis candidat. Vous voyez ? Donc, dire qu'il n'était pas au courant, c'est de la foutaise.
Je vous le dis comme ça.
Donc, il n'y a pas de lapsus, et il le savait très bien. Et je pense que ce matin, Éric Zemmour a dû envoyer à son patron un grand remerciement, un SMS en disant « Merci pour le coup de pouce ». Donc, je le vois que comme ça. Et en effet, Éric Zemmour attend de certains patrons qui le financent, indirectement bien sûr, mais parce que c'est réglementé, mais qu'il participe activement à sa campagne, qu'il puisse faire les pages de tous ses journaux et qu'il puisse être invité à avoir un temps de parole bien au-delà de tous les autres petits candidats. C'est comme ça qu'on les appelle. Pour moi, il n'y a pas de petits candidats.
Ceci étant dit, c'est les Français qui décideront d'ici quelques semaines.
Oui, bien sûr, mais moi j'ai...
Théoriquement parlant, je dirais.
Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, l'un des plus puissants groupes, justement, il le dit lui-même, un premier actionnaire de Canal+, il a tout, hein, il a des groupes d'édition, il a des journaux, il a un véritable poids dans la publicité et les médias avec Havas, il a maintenant la radio depuis peu, Europe 1.
Quand tout il a pris Canal+, attention, la première chose qu'il a faite, c'était d'arrêter les guignols.
Tout ça, ça illustre bien quand même, messieurs, l'influence de l'Empire Bolloré.
Bah, je dirais même une forme de le fait que la politique est inféodée à l'Empire Bolloré et tous ces gars-là, en fait.
Ouais.
Et en fait, quand vous êtes candidat, vous avez remarqué une chose, c'est que tous les candidats, enfin les grands candidats des grands partis du capital, du genre PS, LR, etc., quand ils sont candidats, à un moment, c'est comme à l'époque de Nicolas Sarkozy, à un moment, ils font toujours leur speech devant un parterre des représentants du CAC 40. La première chose. Et c'est pas pour rien, c'est pas anodin.
Allez, on revient justement en parler, il est 19h30, c'est le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et le Quoi de Neuf, comme chaque jeudi, vous le savez, c'est Pascal Boniface, le patron de l'Eris. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Adil.
Comment ça va ?
Ben, ça va bien, ça va bien.
Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, votre signature, à un an de, justement, de Biden, pardon, du.
Oui, un an de Biden, effectivement. Un an de Biden. Alors, on était tous contents, Adil, lorsque Trump a quitté le pouvoir.
Ah, ça, oui.
Parce que plus personne ne pouvait vraiment le supporter. C'était une menace, pas pour la paix mondiale, parce qu'il voulait pas faire la guerre.
Beaucoup le regrettent,
j'ai
l'impression.
Pour le système mondial, pour l'ensemble du système multilatéral, et tout le monde était rassuré de voir Biden, qui est un homme décent, qui est un homme poli, arrive au pouvoir, un démocrate, et à force est de constater, c'est pas entièrement de sa faute, mais quand même beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions, parce
ouais,
que bien sur le plan intérieur que sur le plan international, il est un peu encalaminé. Sur le plan intérieur, il n'arrive pas à faire passer ses réformes. Il a une majorité de 50, enfin, il n'a pas de majorité, il est juste 50-50 au Sénat. Et il y a un sénateur qui l'a abandonné, donc il ne peut pas faire passer ses réformes. Et puis on craint qu'il perde les élections de mi-mandat qui sont programmées pour novembre. Et puis sur le plan international, entre Kaboul et puis le reste, pas de grands changements. Alors bien sûr, il est revenu en accord sur le climat de Paris, mais par rapport aux Européens, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas toujours traité les Européens de façon correcte, même si maintenant il met un petit peu d'eau dans son vin ou dans son bourbon pour essayer de les rameuter un peu par rapport à la Russie. Donc, en fait, bien sûr, on ne peut que se réjouir de voir que Trump n'est plus au pouvoir.
Oui.
Bien sûr, tout n'est pas de la faute de Biden parce que, une fois encore, le système politique américain très éclaté empêche finalement de faire des réformes. Mais la grande réforme fiscale, faut l'oublier. Les grands travaux, faut les oublier. Et donc, c'est quand même, en fait, une déception. Et puis, ceux qui avaient l'illusion, c'était pas mon cas, bien sûr, Adil, on en a déjà parlé. Ceux qui avaient l'illusion d'avoir des États-Unis très multilatéralistes, qui allaient voter pour tout le monde, ben, ceux-là, franchement, se faisaient des illusions et ils ne peuvent plus s'en faire aujourd'hui.
Excellent billet, parce que c'est vrai que là, vous résumez assez bien, et beaucoup regardent d'ailleurs Donald Trump hein, au pouvoir, c'est vrai. J'ai entendu, moi, ce son de cloche, et finalement, qu'a-t-il foutu, pardonnez-moi la trivialité, Joe Biden ? Bah rien. Rien que de déception.
Voilà, alors bien sûr, ceci étant, si Trump revient au pouvoir, ça sera pire, et donc ça, on ne peut pas le souhaiter, évidemment.
Puis-je me permettre simplement de vous poser une question, mon cher Pascal Boniface,
un
sujet en dehors, je m'adresse aux géopoliticiens. C'était le débat de notre face-à-face avec Jimmy Damidou et Abdeslam Itach, à savoir, l'État chinois est-il encore un État communiste ?
Oui, parce que c'est le Parti communiste qui est au pouvoir, parce que les moyens de production sont quand même encore largement collectifs, mais c'est aussi, avant tout, c'est un communiste très particulier. C'est un communiste capitaliste, parce que ce qui fait la justice du Parti communiste.
Vous avez vous de raison.
Aujourd'hui, ce n'est pas les œuvres de Mao Tse-tung, ce n'est pas les œuvres de Karl Marx, c'est l'état de l'économie, l'état de la bourse. C'est ça qui fait la solidité du Parti communiste chinois, et c'est ça qui fait finalement sa légitimité. C'est le nationalisme et le capitalisme qui ne sont normalement pas dans les brévières habituelles.
Merci pour ces précisions. Il y a juste, je me permets, je vous libère, je sais qu'évidemment, le temps est précieux. Jimmy Damidou souhaite simplement vous interpeller.
Juste pour dire, salut Pascal, merci
salut.
Pour ton intervention. Non, c'est juste pour dire qu'en fait, en Chine, le mode de production est collectivisé, évidemment, les moyens de production sont collectivisés, mais tout de même, il y a une différence à faire, même si les deux sont liés, entre le mode de production collectivisé et le mode de répartition des marchandises et la politique qui se construit
sur cette base.
Voilà, juste ça. Il y a souvent une contradiction entre les deux. Et en fait, la position du parti État chinois, c'est plutôt lié à une dégénérescence politique plutôt qu'à un mode de production collectivisé qui, pour moi, reste rationnel, en fait.
Bon.
Juste ça.
Bon.
Moi, on peut en parler. Hein.
Bon. En tout cas, vous deux, vous avez eu raison, finalement, puisqu'il nous a répondu à la question. Merci, Pascal Boniface. Je vous dis à jeudi prochain, sans faute.
Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir partagé. Prenez soin de vous surtout. 19h35.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
On marque une pause pub et on se retrouve tout de suite après pour poursuivre le débat sur le lapsus révélateur ou pas. Justement, Abdeslam Itach était en train de développer son idée et on parlera aussi du Covid-19.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, c'est avec Abdeslam Itach. Les informés, c'est avec Jimmy Damidou. Mais les informés aussi, c'est avec vous partout en France. On vous attend au 01 53 48 3000. Est-ce que le fait d'avoir une concentration de tous les médias comme ça, est-ce que vous pensez que c'est une grosse influence avec cet empire Bolloré, l'empire médiatique Jimmy Damidou?
Ah ouais, c'est carrément, c'est plus que d'influence en fait. C'est carrément... En fait, c'est les médias actuellement en France, comme CNews, etc. Moi, je l'ai répété déjà deux fois, mais je pense que c'est important de réaffirmer que CNews, par exemple, ça ressemble plus à un organe d'agitation propagande qui diffuse l'idéologie et la propagande des multinationales.
Tout à fait.
On a un problème dans les médias en France. Je pense vraiment qu'on a un média dans les médias en France, et que beaucoup de médias n'ont plus cette, un petit peu comme le médecin avec le serment d'Hippocrate. Vous voyez, normalement il doit y avoir une certaine neutralité. C'est-à-dire, vous diffusez de l'information, vous diffusez des éléments objectifs qui arrivent, et vous mettez en exergue une liberté d'expression, etc. Donc moi, ce qui me gêne dans les médias en France actuellement, c'est qu'il y a de la censure. Alors, si vous dites quelque chose qui sort un petit peu du cadre, ben vous êtes censuré. De plus, on le voit bien, dès qu'il y a une position politique qui est mise en pratique, en exergue à l'Assemblée nationale, on remarque bien que la plupart des médias, BFM, CNews, ils se précipitent sur ce qui a été décidé et ils mettent en application sur leur plateau télé ce qui a été dit juste avant à l'Assemblée. Moi, ça me pose un véritable problème.
Ouais. Ça pose un problème. Et vous, ça vous pose un problème?
Il y a une américanisation de l'actualité.
C'est ce que je pense aussi.
Les chaînes H24.
Nos chaînes se sont américanisées. D'ailleurs, si vous avez un avis, n'hésitez pas à 01 53 48 3000.
Mais en fait, le problème des journalistes, c'est qu'ils font beaucoup de clafoutis avec une cerise. Vous voyez? Et qu'en fait, il suffit qu'ils aient une chose et ils la passent pendant toute la journée, pendant 24 heures. Et ça, c'est pas la vision que j'ai du journalisme.
Oui.
Vous voyez? Ensuite, oui, en effet, il est important pour un candidat d'être dans les médias. La redondance du message, c'est quelque chose d'important. Vous savez, un petit peu façon Martine à la plage, Martine se maquille, Martine. Et en fait, si Zemmour, un jour, il est à Whirlpool, et que l'après-midi, il est à Danzas, et le lendemain, il est à Rungis, et ainsi de suite.
C'est ça.
Forcément, les gens se disent quoi? Le type, il est actif, il bouge, on voit que lui, les autres, ils sont à la traîne, ils sont invisibles. Combiné à ça, les instituts de sondage, que l'on paye une fortune, avec des questions qui sont un petit peu orientées, la réponse évidente. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'on construit un candidat. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les candidats ne sont pas dans une compétition à armes égales. Et c'est bien ça le problème. Et souvenez-vous, à la dernière présidentielle, lorsqu'il y avait des débats télévisés, on a considéré qu'il y avait des candidats qui étaient des petits candidats et qui n'avaient pas droit d'être sur le plateau pour pouvoir débattre tous ensemble sous prétexte qu'ils étaient trop nombreux. Oui, mais ça, c'est le jeu de la démocratie.
Arrêtons, effectivement.
Quand on a des candidats,
Jimmy Demidou,
de la même manière. Ouais.
Tout à fait. Là-dessus, on est plutôt d'accord. Du coup, sur le fait que les informations.
Je suis d'accord aujourd'hui.
Non, mais je veux dire, je reviens sur un truc important, sur le fait que certaines informations repassent en boucle. En fait, c'est pas anodin, ça, en fait. Hein. C'est une donnée.
C'est du matraquage.
C'est psychologiquement, oui. ça a un nom, ça, en fait. C'est le fait, s'ils le font, c'est pas pour rien, il faut que ça rentre dans les esprits, en fait. Et comme malheureusement, la plupart des gens passent beaucoup de temps devant la télé, quand vous écoutez et regardez la même chose toute la journée, forcément, à un moment, votre pensée est impactée par ce que vous avez perçu par la télé.
On rentre dans la matrice. Dernier sujet que je voudrais vraiment qu'on en parle, s'il vous plaît, parce que, évidemment, c'est la dernière ligne droite. Et ça vous concerne, Jimmy Demidou, parce que le Covid et le télétravail, aujourd'hui, le gouvernement souhaite prolonger, en tout cas, il veut prolonger de deux semaines la règle des trois jours hebdomadaires, absolument, de distance. Sauf que de l'autre côté, vous avez les familles qui disent stop, ras-le-bol, et certains d'ailleurs disent très compliqué dans la gestion entre les enfants et le quotidien. Jimmy Demidou, vous, en tant que délégué syndical, vous dites quoi?
Alors, on en avait déjà parlé. Alors, je reviendrai pas sur les aspects des conditions de travail et sur le fait qu'en fait les conditions de travail doivent être optimum, même si on est à la maison. Hein, le fait que, je le rappelle très rapidement, hein, l'employeur doit apporter le matériel nécessaire pour travailler, ordinateur, téléphone, les strapontins pour poser les pieds, le siège, le bureau, etc.
Internet.
Internet, la connexion internet, etc. Tout ça. Bon, indépendamment de ça, il faut que l'employeur. On avait peut-être développé sur ce point-là, parce qu'on n'avait pas eu le temps, sur le fait qu'en fait, vraiment mettre en application les différents droits, notamment le droit à l'aide de connexion, les droits du salarié, en fait. Hein. Parce qu'on constate aussi qu'il y a pas mal de dérives patronales. C'est-à-dire que, alors que les salariés sont en télétravail, bah, du coup, même si officiellement ils ont fini leur travail,
par exemple,
même si par exemple le gars il a fini à 17h, le patron continue à l'appeler, il continue à lui envoyer des mails. Bon, effectivement, vous me direz, bon, il n'est pas dans l'obligation de répondre aux mails, il n'est pas obligé de décrocher. Mais beaucoup de salariés, ils ont une conscience professionnelle. Il y a des pressions sociales qui sont exercées de la part des patrons sur les salariés. Et finalement, ils se retrouvent... En fait, depuis qu'il y a eu le télétravail, les salariés travaillent plus, en fait. Oui. La plupart se sont retrouvés, et moi, je discute...
Avec le même salaire.
Avec le même salaire, ils travaillent 9, 10, 12 heures par jour depuis le télétravail.
C'est ce qu'on vous dit.
Tout à fait. Et en fait, ça arrange le capital, lui, ce qu'il veut. Le capital, lui, ça l'arrange, en fait. Parce que du coup, il se retrouve à payer une force de travail 8
travailler
heures.
Travailler plus pour gagner moins.
Abdeslamitash. Moi, je ne travaille pas pour le capital. Moi, je suis dans la fonction publique territoriale. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mon poste est télétravaillable. Et que mon employeur a envoyé Veritas chez moi pour vérifier mon tableau électrique, ma prise, vérifier si mon bureau était conforme pour pouvoir travailler depuis la maison. On m'a confié un ordinateur portable, dernier cri, et je peux travailler à distance sans aucun problème. Mais là où je te rejoins, Jimmy, c'est que le problème, c'est que je m'en suis rendu compte. J'allume mon ordi. Alors, c'est génial. J'ai plus les bouchons, 1h15 de bouchons tous les matins. C'est génial.
Ça change tout. Hein.
Par contre, j'allume mon ordinateur à 8h. Et je l'éteins à 19h. Et c'est bien là le problème. Et c'est là le piège.
Ah, c'est le piège, ça.
En fait,
on a
l'ordinateur qui est ouvert et on reçoit un mail. Mais en même temps, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, j'ai mon téléphone pro avec moi. Je guette les mails. Et à 20h, 21h, 22h, 23h, c'est mon défaut. Je le reconnais. Je réponds à un mail à 23h. Je ne devrais pas, mais je réponds au mail à 23h parce que voilà, j'ai envie que les choses avancent. Mais en effet, c'est un vrai piège. Et on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, on ne fait pas 7 heures, on fait beaucoup plus que 7 heures à réaliser ça. Mais en même temps, il faut se dire qu'on vit quand même une époque quand même bizarre avec cette pandémie et qu'il faille prendre des mesures pour pouvoir justement protéger les gens. Moi, j'ai mon adjoint qui a le Covid, d'accord ? Et le fait d'avoir travaillé pendant 2 jours, d'avoir été en télétravail pendant 2 jours, ça m'a peut-être évité de l'attraper. Donc, tu vois.
Ouais, mais alors, si tu fais le lien, c'est toi qui fais le lien entre la situation sanitaire et le télétravail. Ouais, non. Parce qu'il y a un autre paramètre, quand même, qu'il faut dire, c'est que, pour moi, l'aspect sanitaire de la situation est un paravent, en fait. On est c'est pas pour rien que depuis plusieurs mois, là, justement, on parlait des médias,
et qui nous
prennent la tête, et que le nouveau monde, l'ancien monde.
Ne dis pas que le virus n'existe pas.
J'ai pas dit qu'il n'existe pas.
D'accord.
J'ai jamais dit que le virus n'existe pas. J'ai dit le virus existe, mais il n'est pas plus, je réaffirme ce que j'ai dit. Il existe, mais il n'est pas plus dangereux qu'une grippe. Le problème, c'est que le nouveau monde dont tout le monde parle, en fait, c'est le monde du cyberespace. Moi, c'est ce que j'appelle le cyberimpérialisme. Le cyberimpérialisme. C'est le monde du cyberespace. Et le problème, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de force de travail, on a parlé de division du travail, division sociale du travail internationalisée, on a parlé de moyens de production, on voit bien que le moyen de production collectivisé en certain essor et démontre en fait qu'il y a une certaine rationalité.
On est passé de 39 heures à 35 heures. Et donc,
ce qu'ils veulent, c'est développer le cyberespace. Ils veulent que le télétravail, tu verras que même après, quand l'aspect sanitaire, la crise sanitaire, entre guillemets, sera terminée, le travail va pérenniser, en fait. Parce que ce qu'ils veulent.
La seule crainte, moi je vais dire où est la crainte, Jimmy. La seule crainte,
c'est. En plus, les mecs qui travaillent 12 heures, payent 8 heures, donc ça les arrange.
Que le travail, on peut le faire à distance et qu'à terme, un patron puisse décider de délocaliser. C'est-à-dire, finalement, ce travail-là, on peut le faire à distance. Il n'y a pas besoin de proximité.
Ça va arriver.
Et ça se fait déjà.
Déjà, on est déjà en plein dedans.
Et finalement,
je vais envoyer
ça en Asie. Je voudrais,
s'il vous plaît, juste toucher de quelques mots avant la fin, parce qu'il me reste quelques minutes. Juste sur la CAN. La CAN, vous suivez un petit peu le football ou pas?
Oui.
La CAN avec évidemment les résultats, même si vous n'aimez pas le foot. Les résultats ce soir, chers amis auditeurs et les débatteurs, la Côte d'Ivoire face à l'Algérie, 3-1. Hélas, évidemment, l'Algérie et les Fennecs quittent la CAN. Le Maroc, donc lui, quant à lui, se retrouve propulsé au huitième de finale. La Tunisie joue sa huitième de finale ce soir à 20h face à la la Gambie, puisqu'ils ont joué avec les Mauritaniens 4-0. Si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas. Donc 01 53 48 3000. Qu'avez-vous pensé de ce match Côte d'Ivoire Algérie? Et effectivement, il a été terrible. J'ai vu quelques images tout à l'heure. C'était dur. Abdeslam Itache.
Non, mais alors, je vais supporter le Maroc et la Tunisie parce que je souhaite que la coupe reste au Maghreb. Voilà, c'est tout. Et je souhaite bon vent à ces deux équipes-là que je supporterai jusqu'au bout. Et voilà. Vous savez, moi, je suis derrière les Fennec. Bon, voilà, les Fennec n'y sont plus. Ça ne me gêne pas de soutenir des équipes amies. Et bon vent à ces deux équipes-là et je suivrai les matchs.
Vous n'êtes pas footeux? Vous voulez dire un mot?
J'aime pas le foot, mais je respecte ceux qui aiment le foot, évidemment. Et je dirais tout simplement que le meilleur gagne. Après, c'est du sport.
Ah, j'adore, facile.
Non, mais c'est vrai, c'est du sport.
C'est ça.
Je pense qu'ils méritent tous de gagner, mais malheureusement, il faut un seul gagnant.
C'est ça, exactement. Messieurs, à très bientôt.
À bientôt. Est-ce que je peux dire juste un mot?
Oui, bien sûr, allez-y, Abdeslam.
Par rapport à l'élection à Bondy, pareil.
Ah oui, c'est ce dimanche. Allez voter, les amis de Bondy.
À l'équipe de Carré-Alouache.
Les Bondinois.
Et de l'ancienne maire.
Sylvine Thomassin,
je leur souhaite bon courage, qu'ils reprennent cette ville qui est partie dans tous les sens. Et voilà, il est temps de remettre cette ville Bondy dans l'ordre. Donc, bon courage à Karim, bonne campagne, bonne fin de campagne et de tout cœur avec toi.
Bondy où se joue donc la réélection de l'élection municipale, donc la mairie, c'est ce dimanche. Allez voter, les amis. Je compte sur vous. Il faut absolument aller voter. Voter. C'est très, très important. Dans la vérité, c'est très, très, très important. Merci Abdeslam Itache.
Merci.
Merci à Jimmy Damidou.
Merci.
À la réalisation, c'était Yanis. Merci à vous tous. On se retrouve demain pour vendredi, dernier jour de la semaine. Avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.